Je ne sais pas si vous connaissez cette émission « The Undercover Boss ». Il y en a qui ont vu ça? Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein? C'est une nouvelle émission, elle a commencé l'année passée. Et c'est au réseau américain, donc pour ça le nom « The Undercover Boss ». Si on traduirait, ça voudrait dire « le patron sous le couvert », quelque chose comme ça, là. En dessous de la couverte, le patron en dessous de la couverte. En fait, ça veut dire le patron clandestin, en mission clandestine. C'est un peu ça l'idée de l'émission. Alors, l'émission, elle a remporté un succès pratiquement immédiat. Et c'est la deuxième année. Christina et moi, on essaye de l'écouter. C'est justement le dimanche soir. Alors, c'est agréable parce qu'il y a toujours quelque chose de percutant dans cette émission-là. Et l'idée de l'émission... Et ça va bien avec le texte de ce matin. Mais l'idée de l'émission, c'est la suivante. C'est qu'il demande à un CEO, c'est-à-dire un haut dirigeant d'une grande compagnie américaine, souvent c'est même le propriétaire, puis des fois ça a été d'histoire de famille, là, le grand-père était impliqué, puis le père et tout ça, puis là c'est le fils qui prend la relève, des choses comme ça. Et puis, ce qu'il lui demande au patron, c'est de dire, écoute, voici ce qu'on voudrait faire, c'est faire une émission à partir de ton entreprise, et toi, tu vas être en mission secrète, et tu vas infiltrer ta compagnie. Tu vas aller dans les différents départements que tu vas choisir, et il y en a habituellement à peu près 5 départements, et puis tu vas te faire passer pour quelqu'un qui est un chômeur vétéran, qui veut retourner sur le marché du travail. Il va se déguiser. Puis, c'est aussi, on va dire que c'est une émission de télévision qui veut accompagner des gens qui essayent de retourner sur le marché du travail après un temps long d'absence. Vous comprenez l'idée? Alors, naturellement, la compagnie accepte et puis choisissent les départements. Et là, il y a des personnes responsables de chaque département qui accompagnent ce patron qui est en mission clandestine. Et pour rendre un petit peu encore plus crédible l'émission, c'est qu'ils disent qu'il y a deux personnes qui vont faire le même exercice, et puis à la fin, chacun des employés qui a accompagné ces personnes-là, il va devoir voter lequel entre les deux mérite le poste. Comprenez? Lequel mériterait une chance dans l'entreprise. Alors, là, on voit, c'est filmé, on voit le undercover boss se présenter aux différents endroits. Et puis, là, on lui explique que ça va être son travail. Et là, il essaie de faire le travail qu'on lui demande. Et là, c'est très, très intéressant de voir souvent comment le CEO a de la misère à faire la job que les employés font. Vous comprenez? C'est très drôle des fois même. Et puis là, à la fin, bien là, ils font venir les employés en question, en limousine et tout le kit, venir voter pour lequel des deux employés qui trouvent qu'ils mériteraient une chance. Et là, c'est là que le patron se révèle. L'employé dans son bureau, du bureau du patron, là, tout à coup, le patron arrive, puis là, il y a des gens qui le reconnaissent tout de suite, puis il y en a d'autres qui disent, « Hum, il me semble que je t'ai vu à quelque part. » Puis là, finalement, il dit, « Ben voici mon nom, puis je m'appelais tel nom. » Puis là, c'est comme, « Oh, là, il y en a qu'on voit, là. » Là, il dit, « Je suis dans la marde. » Là, c'est comme, « Oh, non! » Puis là, il se rappelle des fois qu'est-ce qu'ils lui ont dit. Hein? Puis là, alors là, on voit que la température monte un petit peu. Puis, mais vous savez, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est ce moment où tout à coup, le patron partage son expérience et partage dans certaines situations à quel point il a été bouleversé de voir ce qui se passait dans son entreprise. Et de voir comment cet employé-là était exceptionnel. Je me souviens d'une situation où il y avait une dame, une mère de famille, qui était même celle qui était un peu la qui gagnait le pain de toute la maisonnée. Et elle avait littéralement sur ses épaules la charge de 3 employés. Et là, le patron essaye de faire ce qu'elle a fait, puis il n'y arrive tout simplement pas, là. C'est impossible. Il se demande comment est-ce qu'elle fait pour rouler comme ça, puis ainsi de suite. Et là, pendant l'émission, elle l'invite même chez elle, à la maison, venir prendre un repas. Lui, il accepte, tout content d'aller prendre un repas. Et là, il arrive chez cet employé-là, et là, il voit une pancarte à l'extérieur, sa maison est à vendre. Il rentre à l'intérieur, là, les parents de la dame sont là, son mari est là, qui a des problèmes de santé. Les parents de la dame sont là, puis c'est elle qui soutient tout ce monde-là. Puis, elle accepte de faire 3 jobs, parce qu'elle sait qu'elle a besoin du travail. Et là, lui, comprenez, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas correct. Alors, à la fin, quand elle vient se présenter, et là, il commence à lui partager ce qu'il a vu, ce qu'il a remarqué, puis là, il dit, il faut que ça change. Et là, il lui donne une promotion. Il la met en charge de la formation. Il engage 2 autres personnes parce qu'elle, ce qu'elle faisait, ça faisait faire la job de 3, ça ne marchait pas. Il parle au superviseur de cette dame-là. Et là, il lui dit, il faut que ça change. Ça n'a pas d'allure. Ah oui, oui, c'est correct. Oui, ah, pas de problème. Ben oui, c'est vrai, on y avait pensé. Puis on s'en allait le faire, là, tu sais, puis tout. Et là, en plus, savez-vous ce qu'il fait? Il paye l'hypothèque de la maison. Elle a dit, ça n'existe pas, ces choses-là. Ça n'arrive pas dans ce monde-ci. Elle a dit, je dois rêver. Je dois rêver. Et là, à la fin, ils invitent tous les employés. Puis il y a autant d'employés comme on est ce matin. Puis là, tout le monde est invité. Et là, il dit l'expérience qu'il a vécue. Il partage à tous ses employés. Voici ce que j'ai fait la semaine passée. J'étais en mission clandestine. J'ai infiltré la compagnie. Et je suis allé visiter différents départements. Puis là, il donne des petits clips de comment ça a mal été pour lui d'essayer de faire la job de tous les employés. Puis là, on entend des petits faits cocasses en disant « il l'a pas pantoute, ça paraît que ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé, il est vraiment maladroit », tu sais, toutes sortes d'affaires de même là, qui est vraiment drôle. Tout le monde rit naturellement, lui inclus. Mais là, il partage son cœur ensuite aux employés, puis il disait « il dit, ce que je me rends compte, c'est que nous, des fois, on est déconnectés de ce que vous vivez. Mais là, il dit, à partir de maintenant, ça va changer. À partir de maintenant, ça va changer. Parce qu'on réalise que notre compagnie, c'est vraiment vous, c'est vous autres les employés. Puis là, il y en a qui ont été vraiment même transformés. Il y a même des patrons qui ont même changé leur style de vie. Tellement que ça a eu un impact dans leur vie. Et le texte d'aujourd'hui met justement l'emphase sur la raison de la venue de Jésus sur la terre. Même s'il n'est pas venu chez les siens d'une manière clandestine, des fois on voit qu'il y a eu de la misère à se faire comprendre, mais il est venu d'une façon très claire en disant qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Fils de l'homme, qu'il était le Messie. Il n'est pas venu d'une manière clandestine comme the undercover boss de sa création. Les siens ne l'ont pas reçu. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'Évangile. Les siens ne l'ont pas reçu. Et plusieurs, incluant ses propres disciples, n'ont pas compris le sens de sa mission, de sa venue sur terre. Toutefois, quelques-uns l'ont reçu et l'ont compris. Et là, c'est là où c'est surprenant de voir qui sont ces personnes. Ce matin, Marc veut attirer notre attention sur ce qu'il leur a permis à ces gens-là de le recevoir, le Messie, et de le comprendre. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on va ouvrir ta parole ce matin, on va lire ce récit dans Marc 10 qui nous rappelle ta venue sur la terre et ce que tu as enseigné, comment tu as interagi parmi les tiens. où tu as voulu leur faire connaître l'amour de Dieu, où tu as voulu leur communiquer quelle était la pensée de Dieu. Pas selon la distorsion que le judaïsme et que les hommes et que les anciens, les traditions et tout ça avaient essayé d'apporter au fil des années, mais comment vraiment ton Père était ce qu'il pensait et ce qu'il voulait pour sa créature. Et Seigneur, ce matin, nous te demandons ton assistance, l'aide de ton esprit, pour que nos cœurs puissent s'ouvrir, que l'on comprenne pas seulement avec notre intelligence et tous les obstacles souvent qu'il peut y avoir dans notre intelligence, mais que tout à coup notre cœur puisse s'ouvrir à ce que ta parole a à nous communiquer ce matin. Est-ce que, Seigneur Jésus, tu pourrais, par ton esprit, disposer nos cœurs ce matin pour qu'on reçoive ce que tu as à nous communiquer, afin qu'on puisse nous aussi répondre avec foi, en te faisant confiance, en venant à toi tel que nous sommes, et que nous puissions nous aussi goûter à ce que tu as en réserve pour chacun de nous. Que l'on puisse te recevoir, t'accueillir ce matin, Seigneur Jésus. C'est ma prière. Je te le demande en ton nom et pour ta gloire. Amen. Alors, le récit biblique est dans Marc chapitre 10 et on continue. On est rendu au verset 23 et on va aller jusqu'au verset 53. Donc, c'est quand même une bonne portion. Et on voit ici trois problèmes dans cette portion-là du verset 23 à 53. Et on voit la solution à ces trois problèmes. Le premier problème, c'est celle des possessions matérielles. Et c'est dans les versets 23 à 31. Et ça continue sur l'histoire en rapport avec le jeune homme riche qui est venu rencontrer Jésus en lui demandant ce qu'il fallait qu'il fasse pour avoir la vie éternelle. Maintenant, Jésus continue dans son enseignement après avoir interagi avec le jeune homme riche. Et là, il lui dit ceci en ce qui concerne le problème des possessions matérielles. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Est-ce qu'ils ont compris? Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il veut dire encore? Pourtant, c'est ses disciples, là. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Voyons donc. C'est dur pour des riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, Jésus continue et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est même plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors là, les disciples s'étonnaient encore davantage. Mais là, ils sont encore plus confus. Ils se disaient les uns aux autres, « Mais alors, qui peut être sauvé? Si eux autres ne peuvent pas être sauvés, qui peut être sauvé? » Voyez leur confusion? Parce que pour eux, dans l'échelle potentielle de qui va arriver au salut, les riches, autrement dit, étaient en haut de l'échelle. Comprenez? Alors là, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas, là. Si les riches ne peuvent pas être sauvés, qui peut être sauvé? Là, on a un problème. Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple, présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. » Donc, ce n'est pas juste dans l'éternité. Il y a même dans le temps présent. « Avec des persécutions, ça c'est un petit peu le dessert, hein? La cerise sur le gâteau. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Donc, ça, c'est le problème des possessions matérielles. Le deuxième problème qu'on rencontre dans le texte, c'est les versets 32 à 34, et c'est celui de la passion, c'est-à-dire la mort de Christ, ce qui s'en vient. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Alors, Jésus s'enligne dans cette direction, s'en va vers le mont Golgotha et la crucifixion. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés. Et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Alors, il voulait les calmer. Non, il a mis encore plus. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, qui étaient les leaders religieux. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens. Ah ben là, c'est le bout des bouts. En plus, les païens sont mêlés là-dedans. Ils vont se moquer de lui, ils vont cracher sur lui, ils vont le flageller et ils le feront mourir. Et trois jours après, il va ressusciter. Ça, c'est le problème de la passion pour les disciples. Ça leur cause tout un problème. Regardez bien, le troisième problème, c'est le problème de l'ambition. Les versets 35 à 45. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Et il leur dit, « Que désirez-vous que je fasse pour vous? »« Ah, donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans la gloire ou dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je boirai ?» et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé, et lui dire, nous le pouvons, absolument, aucun problème. Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire, et que vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. Verset 41. Les dix qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Oh, que vous êtes affreux, vous autres, d'avoir de pensées aussi ignobles. Moi, je pense qu'ils étaient fâchés contre eux parce qu'ils avaient pensé avant eux. Ah oui, c'est ça. Vous avez allé sauter sur le gâteau avant qu'on ait la chance d'y aller. Jésus les appela et leur dit ceci. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations tyrannisent leurs sujets. On a dans les nouvelles pas mal de ça, ces temps-ci. Ça, c'est la façon que les chefs des nations agissent envers ceux qu'ils servent, soi-disant. Et que les grands abusent de leur pouvoir sur ces personnes, sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand sera votre serviteur. Quiconque veut être le premier sera l'esclave de tous. Et là, il dit ceci au verset 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Problème des possessions matérielles, problème de la passion et problème ici de l'ambition. Le thème du message de ce matin, c'est la croix ou le trône. Et ici, la solution à chacun de ces problèmes vient dans ce que Marc nous donne ici, ce qui représente la solution au problème des possessions, la solution au problème de la passion et la solution au problème de l'ambition. Et c'est le récit suivant. C'est la guérison d'un aveugle. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une grande foule était autour de lui. Et là, il y avait un mendiant aveugle qui s'appelle Bartimée, fils de Timée, qui était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et là, tout à coup, spontanément, il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs lui faisaient des reproches pour lui dire, « De se taire, ferme-la, ferme ta gueule! Arrête de crier, tu nous déranges! Je veux rien savoir de toi! T'es un mendiant! T'es pas sur Facebook à nulle part, y'a pas personne qui t'a mis comme ami! Hein? Qui veut d'un ami un mendiant, en plus aveugle? Ferme-la! C'est ça que ça dit? Ben, presque. Ça ressemble à ça. Et lui, ce qu'il a fait, ça dit qu'il a crié d'autant plus fort. Si vous avez pensé que vous allez m'empêcher. Fils de David, aie pitié de moi! Jésus s'arrêtait, clang. Il est the undercover boss. Et dit, appelez-le. C'est ce que vous pensez qu'il se passe. Si Jésus dit, appelez-le, ceux qui disent, ferme-la, tout à coup, ils disent, ah oui, c'est notre ami. Hein? Ben oui, on le connaît. Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Hein? Pouf! Un changement incroyable. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Vous voyez, contrairement à ce que Jacques et Jean avaient demandé, « Fais ce qu'on veut que tu fasses. Dis-nous oui avant qu'on te le demande. » Jésus dit, « C'est quoi que tu veux que je te fasse? » Jésus lui demande, « Que veux-tu que je te fasse? » Il dit, « Rabboni, ce qui veut dire maître. » Vous vous souvenez, le jeune homme riche qui est venu vers Jésus lui a dit aussi, « Maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Maintenant, il dit, « Rabboni, maître, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin qui mène à Jérusalem, à la croix. L'aveugle a choisi le chemin qui mène à la croix. Jacques et Jean et les disciples voulaient une place à la droite ou à la gauche de Jésus sur le trône. Lui, spontanément, il a choisi la croix. C'est quoi le problème des possessions matérielles? Bien, selon Jésus, c'est qu'elles sont un énorme handicap pour le salut. C'est ce que Jésus donne ici dans le texte. Ça, c'est le problème. Premièrement, à deux reprises, Jésus dit, au verset 23-24, que la grande difficulté que les richesses représentent. Il le dit clairement, il le répète une deuxième fois, montrant que à quel point c'est vrai. Même cette affirmation est considérée comme l'une des plus percutantes de Jésus, catégorique. La croyance populaire, pourtant, était que les riches sont ceux qui l'avaient facile. Eux, ils ont tout. Ils ont tout en abondance. Ils ont la sécurité matérielle, ils ont les meilleurs services, ils ont la gloire, ils ont le prestige, ils ont le luxe. Toutes les portes s'ouvrent devant eux. Ils peuvent aller chez le médecin quand qu'ils veulent. Ils veulent se payer les services qu'ils veulent. Eux, ils ont la vie facile. Ils sont dans une classe à part. Et, à l'époque, les riches étaient considérés comme étant ceux qui avaient même la faveur de Dieu, puisque les richesses étaient pour eux un signe incontestable de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Si tu étais riche, c'est parce que Dieu était de ton bord. Dieu était pour toi, Dieu était avec toi, et ça voulait dire que tu faisais les bonnes choses. Et en plus, les riches étaient ceux qui pouvaient faire de grandes aumônes, donner de leur superflu. Mais c'était des grosses sommes. Mais ça lui faisait pas mal. Mais il pouvait faire des grosses aumônes. Et même Jésus, à un moment donné, va les dénoncer en disant, « Ne faites pas comme eux, allant sur le coin de la rue. » Sieur Benoît de Lavergne s'apprête à faire une aumône pour les pauvres de ce monde. Sachez que la somme de 200 000 $ sera donnée pour aider les pauvres de ce monde. Applaudissons, Sieur Benoît de Lavergne. Hein? C'est comme ça que ça marchait, l'aumône. Jésus vient puis il dit, « Ah, ah! » Ça va être dur, c'est dur, quelqu'un qui a des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Quoi? Comprenez comment c'est totalement l'inverse. Voyez, selon Jésus, les réalités du royaume de Dieu sont bien différentes de celles du royaume de ce monde. Les richesses sont en fait un piège pour le cœur. Pourquoi? Parce que les richesses créent une dépendance. Tout comme la drogue, comme la boisson et bien d'autres choses. Un attachement tenace que Jésus désigne dans la parabole du semeur comme étant la séduction des richesses qui étouffent la parole semée dans le cœur. C'est ça les richesses. C'est ça l'argent. Hein? Comme Séraphin. Hein? Maudit argent. Hein? Il aimait son argent. Il était amoureux de son argent. Et c'est ça que Jésus dit. La séduction des richesses vient étrangler la parole de Dieu dans le cœur. Nous voyons aussi dans les versets précédents, chapitre 10, versets 17 à 22, le jeune homme riche qui repart, nous dit le texte, triste, après avoir parlé à Jésus. Vous savez, c'est le seul homme qu'on voit qui vient vers Jésus avec une requête tellement claire, avec un désir tellement sincère. Même Jésus dit qu'il l'a regardé et qu'il l'a aimé, ce jeune homme riche-là. Il l'a aimé. Mais pourtant, à la fin d'avoir rencontré Jésus, il est reparti triste. Il avait un visage triste. Son enthousiasme du début est frappant lorsqu'il vient à Jésus et il dit... qu'il a accouru pour venir à lui et s'est jeté à ses genoux, puis lui a demandé, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Un cœur tout grand ouvert. Wow! Y a-t-il une question plus claire que ça, puis plus en plein dans la cible? C'est la question à poser à Jésus aujourd'hui. « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? » C'est la question la plus importante que chacun de nous peut poser à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur, pour avoir la vie éternelle? Pourtant, il est reparti avec un cœur affligé et triste. Il n'est pas fâché contre Jésus. Puis il ne conteste même pas avec lui ce que Jésus lui a répondu. Comme, dans le fond, les pharisiens faisaient. Les pharisiens se fâchaient après Jésus, ou les pharisiens contestaient Jésus constamment. Lui, il ne fait rien de ça. Mais le texte nous dit que son cœur est affligé et triste. Pourquoi? Parce qu'il réalise à ce moment-là à quel point les richesses sont plus importantes dans sa vie que de venir à Jésus. Et il sait que ce que Jésus lui demande, il n'est pas prêt à faire ça. Et là, il réalise. Il ne peut pas avoir ce qu'il est venu demander sincèrement à Jésus. Il ne peut pas l'avoir parce que son cœur est ailleurs. Son cœur appartient à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. C'est son argent. Cet homme est prisonnier de son argent. Non seulement est-ce qu'il est prisonnier de son argent, Mais son attachement à son argent est un obstacle réel à son attachement à Jésus. Voyez, le dilemme de cet homme est qu'il ne voit pas comment il peut mettre en pratique ce que le bon maître vient de lui demander, car son cœur est attaché à son argent, à cette maudite argent. Imaginez-vous, pas étonnant qu'il ait reparti avec autant de tristesse dans son cœur et un cœur affligé. Même pour montrer à quel point les richesses sont un obstacle, un problème, Jésus donne ensuite une illustration qui est celle de passer un chameau à travers le trou d'une aiguille. Alors, l'illustration est tellement forte que c'est comme, ben là, écoute, c'est impossible, là. Ben c'est ça, c'est en plein ça, c'est impossible. C'est totalement impossible. Et l'exemple du jeune homme riche en est un bel exemple. Tu peux pas être attaché à tes richesses puis entrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Et le problème de celui qui en a beaucoup, c'est qu'habituellement, il est beaucoup attaché à son argent. Et là, Jésus montre que c'est impossible, humainement impossible. Mais est-ce que ça veut dire que tous les riches ne sont pas sauvés? Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. OK? Humainement, c'est impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, divinement, est-ce que c'est possible? Oui. Si Dieu change le cœur d'un riche et que le riche, naturellement, accepte de laisser Dieu changer son cœur par rapport à ses richesses. Si le jeune homme riche est reparti avec un cœur affligé et triste suite à la réponse de Jésus, les disciples, eux, sont étonnés, nous dit le texte au verset 26, et même ont un cœur angoissé au verset 32, par les explications que Jésus leur donne sur le problème des richesses. Ils ne peuvent pas s'imaginer que le salut puisse être accessible à qui que ce soit d'autre. C'est comme là, si eux ne sont pas sauvés, personne d'autre peut être sauvé. Et c'est là que Jésus vient en disant, non, non, ce n'est pas de même que ça marche. La façon que ça marche, c'est que dans le royaume de Dieu, ça prend une disposition de cœur. Et ceux qui ont probablement le plus de problèmes à avoir cette disposition de cœur sont les riches. Parce que les riches, leur cœur est ailleurs, est attaché ailleurs, a des racines profondes ailleurs. Et étant donné que ces racines-là sont profondes et ailleurs, quand ils sont devant la possibilité de recevoir Jésus, leur cœur vire de bord. Ça, c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Pierre va même aller jusqu'à demander à Jésus s'ils sont eux-mêmes sauvés. Spécial, hein? À ce moment-là, Pierre a douté de son salut et du salut de ses compatriotes, des 11 autres disciples, en disant, « Mais nous, Seigneur, on a tout quitté pour te suivre. Est-ce que c'est correct? C'est suffisant? On est-tu sauvés? » Et là, c'est là que Jésus vient puis en disant, « Pierre, Pierre, je veux te rassurer, les autres disciples, je veux vous rassurer, là. Regardez. Moi, en tant que « the undercover boss », j'infiltre mon église partout, 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 partout. Je suis là quand vous vous réunissez. Je suis là quand vous ne vous réunissez pas. Je vois ce qui se fait publiquement devant tout le monde, mais je vois aussi ce qui se fait en privé, dans le secret, quand personne ne voit. Et moi, je vous dis ceci, il n'y a pas personne, peu importe ce qu'il aura donné pour le royaume de Dieu, que ça ne sera pas récompensé. Ça, c'est ce que Jésus dit. Toute décision que l'un de mes disciples aura pris pour moi, tout sacrifice que l'un de mes enfants aura fait pour moi et le royaume de Dieu, ça ne passera pas inaperçu. The undercover boss va le souligner et va le récompenser. Ça, c'est ce que Jésus dit. C'est ce qui va arriver. il voit tout. Maintenant, le problème de la passion. C'est quoi le problème de la passion? Mais c'est ceci. C'est que là, Jésus révèle que le Messie va être rejeté et humilié, non seulement par les Juifs, mais aussi par les non-Juifs, ce qu'il appelle ici les païens, qui étaient les non-Juifs. Alors, Jésus a annoncé sa grande souffrance et sa mort, déjà au chapitre 8, verset 31, au chapitre 9, verset 31 aussi, ainsi que le mépris des hommes, au chapitre 9, verset 12. Maintenant, il révèle à ses disciples que les non-Juifs vont se moquer de lui, vont cracher sur lui, vont le flageller et vont le faire mourir, au verset 34 du chapitre 10. Le rejet et l'humiliation ne se limitent pas seulement aux siens, c'est-à-dire à la nation juive, mais ce sont aussi les non-juifs, les païens, qui vont le faire aussi. Et ça, la pilule est dure à avaler pour un juif, parce qu'ils ont été tellement méprisés par les païens. Le texte indique qu'ils sont de plus en plus confus et troublés. Même Luc, lui, dans son évangile, va ajouter le commentaire suivant. En parlant des disciples, il dit: ils ne comprirent absolument rien. Pour eux, le problème de la passion est total. On est complètement dans le brouillard. Où tu t'en vas avec tes skis, Jésus? On comprend pas. Pourquoi tu n'arrêtes pas de parler de ça? Mais non, le Messie, c'est pas ça que le Messie va faire. Le Messie, il va régner. Le Messie, c'est un trône. Puis nous, on veut être avec lui. On veut régner avec lui, on veut la gloire. C'est ça qu'on veut. C'est ça que Jésus, tu devrais être. Et là, ils comprennent absolument rien. Ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Alors, Marc et Matthieu rapportent que les fils de Zébédée ont eu une réaction étrange qui ont déplu justement aux autres disciples. Et cette réaction, c'était de l'ambition, hein, d'avoir une place de choix. Au moment que Jésus annonce sa passion, ce qui se trouve être la pire épreuve de sa vie, eux pensent à assurer leurs arrières, pour ne pas dire leur, je ne l'ai pas dit, hein, en occupant les meilleures places. Ils ont même l'audace de dire à Jésus: « Maître, on désire que tu fasses pour nous ce qu'on va te demander. » Et là, donne-nous d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. En Matthieu 20:20, il est dit que c'est la mère des fils de Zébédée, de Jacques et Jean, qui le demanda à Jésus. Alors, ça reflète la coutume. Donc, ce qui veut dire que non seulement Jacques et Jean l'ont demandé, mais même la mère s'est déplacée pour venir voir Jésus puis lui demander que « Peux-tu donner à mes fils une place à ta gauche, pas à ta droite? » Ce qui était apparemment une coutume assez fréquente parmi les Juifs. C'est spécial, hein? Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est le problème de l'ambition. Et c'est quoi le problème de l'ambition? Le problème de l'ambition, c'est le suivant, c'est de rechercher mon intérêt au détriment de ceux du royaume. Donc, c'est mes intérêts qui passent en premier avant de considérer ceux de Dieu, ceux du royaume de Dieu. Ce qui est ironique avec Jacques et Jean, c'est qu'ils rêvent de dominer le monde alors que Jésus s'apprête à vivre le pire cauchemar de son existence. Lui, le Fils de l'homme, va être condamné pour les péchés de ce monde. Jésus va souffrir la pire humiliation en tant que Fils de l'homme. Et vous savez, dans Daniel, au chapitre 7, les versets 13 et 14, le Fils de l'homme est révélé à Daniel comme étant celui qui va avoir un règne qui va être éternel. Et là, le Fils de l'homme s'apprête à subir la pire humiliation Et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est une place de position, une place élevée dans le royaume. Le récit montre qu'ils ont eu du front tout le tour de la tête. Premièrement, on le voit par leur requête et l'audace de leurs propos. Ils se voyaient probablement dans une classe à part, Jacques et Jean, étant donné qu'ils faisaient partie du G3, comme on a vu, des apôtres, des privilégiés. Ils sont allés sur la montagne, par exemple, avec Jésus. Ils ont vu la transfiguration. Et toute leur vie, ils ont profité de certains privilèges justement réservés à la classe à part, Jacques et Jean. Leur père dirigeait une entreprise florissante de pêche en Galilée, Marc 1:20, et ils étaient assez fortunés. Jean, on voit qu'il est connu du souverain sacrificateur, donc c'était des liens qui existaient de longue date, dans Jean chapitre 18, verset 15. Et il pouvait même circuler librement dans la cour du souverain sacrificateur sans se faire déranger, sans se faire poser de questions, ce qui n'était pas le cas de Pierre, par exemple. On voit ça dans Jean 18, 16 et 17. Alors, ils étaient habitués à avoir des égards envers eux. Et là, ça les a montés à la tête, j'ai l'impression. Deuxième chose qu'on voit, c'est qu'ils sont effrontés par la réponse affirmative qu'ils donnent à Jésus lorsqu'il leur demande s'ils sont prêts à boire de la coupe ou sa coupe et à être baptisés du baptême que Jésus va être baptisé. Ils ont répondu sans hésiter oui. Et en fait, eux, la coupe à laquelle ils pensaient, c'était la coupe du conquérant. C'est certain, c'est dit là, dans Luc, qu'ils ne comprenaient absolument pas ce que Jésus voulait dire. C'est certain que ce n'était pas la coupe du jugement de Dieu là, que Jésus allait subir à la croix. Eux, la coupe qu'ils voyaient, c'était la coupe qu'on voit dans le psaume 23:5, qui est la coupe du conquérant, la coupe de la victoire, la coupe de la gloire. C'est ça qu'eux pensaient. Et le baptême était le baptême simplement de purification, et non pas ce baptême-là qui était la mort à soi, c'est-à-dire qui était la croix que Jésus allait subir. Alors, dans un sens, Jésus, quand il pose la question, il sait qu'ils ne vont pas aller à la croix avec lui, puis il n'accepte pas de porter le jugement sur eux, là. Mais en même temps, Jésus dit, oui, c'est vrai, d'une certaine manière, vous allez aussi boire de ma coupe et vous allez aussi être baptisés de mon baptême. Parce que ce qui s'est passé, qu'on voit, c'est qu'après la croix, plus tard, Jacques, qu'est-ce qui arrive? On sait qu'il est passé par l'épée. Hérode Agrippa le passe par l'épée. Et on sait aussi que Jean, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été exilé sur l'île de Patmos. Alors Jésus savait, oui, c'est vrai, vous allez boire de la coupe et vous allez être baptisés. Vous allez effectivement porter ma croix d'une certaine manière, pas ce que moi je vais faire, mais vous voyez, c'est pour ça que Jésus a aussi dit qu'en effet, vous allez faire cela. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que Jacques et Jean ont nettement préféré le trône à la croix, et Jésus le savait. Maintenant, ce que j'ai dit tantôt, puis ce qui est frappant dans cette scène, c'est que alors que les disciples avaient pour ambition le pouvoir, le trône, Jésus, lui, s'apprêtait à renoncer au sien. C'est pour ça aussi, entre autres, qu'il a dit que ce n'était pas à lui de leur donner la place à gauche ou à droite, mais que ça était pour être donné à ceux à qui ça avait été déterminé. Et là, même là, Jésus n'a pas fait usage de ses prérogatives, parce que quand il est venu, naturellement, en tant que fils de l'homme, il est venu aussi en mettant de côté certains de ces éléments qui étaient liés à la divinité qu'il avait, Jésus. Alors, il a donné volontairement sa vie, entre autres. Personne ne lui a ôté. Il l'a fait volontiers. Alors, maintenant, le problème des richesses matérielles, le problème de la passion et de la croix, et le problème de l'ambition trouve vraiment leur solution ou leur réponse dans la guérison de l'aveugle. Cette guérison, c'est le dernier miracle rapporté dans l'Évangile de Marc, à part naturellement la résurrection de Jésus. Ce miracle est public, contrairement aux autres miracles que Jésus faisait souvent en privé. Jésus guérit l'homme au beau milieu de la foule et il n'interdit à personne de le divulguer. C'est arrivé à plusieurs reprises que Jésus interdisait, même à ceux qui avaient été guéris ou à ses disciples, de garder ça pour eux-mêmes, de ne pas répandre ça à nulle part ailleurs. Mais ici, ce n'est pas le cas. Cette guérison a lieu lors de la dernière étape de son voyage vers Jérusalem, donc il s'approche du but de sa venue sur la terre. C'est le seul aveugle dont le nom est nommé, qui est Bartimée. Marc attire toute notre attention sur cet homme en nommant son nom et beaucoup de détails à son endroit. Alors, c'est avec intention, il veut que nos regards se tournent vers lui parce que, justement, en cet homme, il y a la réponse au problème des richesses, il y a la réponse au problème de la croix de la passion et il y a la réponse au problème de l'ambition qui est souligné préalablement. Marc désire faire ressortir les qualités exceptionnelles de Bartimée. Et là vient l'aspect le plus important de ce chapitre, du chapitre 10. Premièrement, la première qualité exceptionnelle qu'on voit de Bartimée, c'est que son appel et son engagement envers Jésus sont totales, sans limite, sans condition, sans bémol, rappelant ici ce que Jésus recherche de chacun de ses disciples ou de ceux qui vont être acceptés dans le royaume de Dieu, ceux qui vont pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Ça prend cet engagement envers Jésus qui est sans réserve. Aucune opposition et aucun bien matériel ne peuvent arrêter ou être un obstacle pour celui qui veut venir après Jésus, celui qui veut être un vrai disciple. Cet homme ne laisse aucunement décourager par ceux qui essayent de l'emmener à terre, s'écrit. Il ne se laisse pas du tout intimider par eux, même s'il est un mendiant aveugle. Okay? Lui, là, c'est le plus bas de la société. Il y a quelque chose dans son cœur qui l'amène à dire, « Vous aurez beau essayer de m'arrêter, moi je vais crier encore plus fort. » Il est peut-être aveugle et mendiant, mais il n'est pas fou, puis il n'est pas muet. Hein? Il se sert de ce qu'il a. Il crie. Et même le texte nous dit qu'aussitôt que Jésus lui a parlé, il a laissé son manteau. Il faut comprendre que pour un mendiant, ça c'est son condominium. Comprenez? Ça c'est son compte en banque. C'est tout ce qu'il a, c'est son manteau. Son manteau lui sert pour tous ses besoins. Il lui sert même que lorsqu'il mendie, les gens vont déposer l'argent sur son manteau. Il laisse tout derrière. 100% pour suivre Jésus. Et le verbe qui est employé ici pour laisser son manteau et suivre Jésus, c'est le même verbe qui décrit l'engagement, le même engagement que Pierre, André, Matthieu, Jacques et Jean ont tous fait. Quand Pierre dit « On a tout laissé derrière, on a tout abandonné pour te suivre. » C'est ça qu'on a fait, Seigneur. On n'a rien gardé, on a tout laissé de côté. Deuxième élément qu'on voit de Bartimée, c'est qu'il a une foi et une compréhension de Jésus qui sont impeccables. Sa foi est exemplaire. Même Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ». Bartimée a compris qui était Jésus. Il a compris la vraie identité de Jésus. Il n'argumente pas avec Jésus pour dire « Non, 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 tu n'iras pas à la croix. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Non, 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 tu n'es pas comme ça. » Non, il ne dit pas, même les gens disaient de lui « C'est Jésus de Nazareth. » Pourtant, lui, il vient puis il dit « Fils de David. » Jésus, fils de David. Et ça, c'était clair et net que Bartimée, ce mendiant aveugle, reconnaissait que Jésus était le Messie. Et il était l'espoir de son cœur, l'espoir de sa vie. Plus tard, ils vont même appeler Jésus Rabouni, qui est un autre titre montrant son respect, son grand respect qu'il avait pour Jésus. Alors, son discernement spirituel à l'égard de Jésus le conduit vers le rétablissement physique de sa vue. C'est ça qui est arrivé. Il a premièrement reconnu en Jésus le fils de David, il a reconnu en lui le Messie, et là Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ». Et là, il a recouvert la vue. Cet homme a recouvert la vue car il a placé sa confiance dans le vrai Jésus, ce que le jeune homme riche n'a pas voulu faire à cause de son problème des richesses. Lui, il a simplement venu à Jésus. Son témoignage, qui est la troisième caractéristique, son témoignage sur Jésus parle fort, rappelant ce que Jésus recherche aussi de chacun de ses disciples. Il s'est mis à parler de Jésus, à parler comme étant Jésus qui est le fils de David, et il a suivi Jésus et il a proclamé. Il a été un témoin oculaire, mais un témoin aussi verbal, qui a parlé haut et fort de sa foi. On voit que Jésus approuve la déclaration que Bartimée fait. Il lui fait aucun reproche. Il lui impose aucune restriction. Il lui dit, « Vas-y, parle, c'est le temps. Le temps est venu. » Pourquoi? Parce qu'on arrive au chapitre 11. Jésus arrive à Jérusalem et la croix est ce qui l'attend. Et ça nous dit aussi que Jésus lui a permis de le suivre sur le chemin le menant à Jérusalem. Le temps de la passion du Messie approche et Bartimée va être un témoin de ce que Jésus va faire. Vous voyez, Bartimée n'a aucune interrogation par rapport au problème des richesses. Pour lui, ça ne lui cause aucun problème. Il ne vit aucune confusion par rapport à l'identité réelle de Jésus et il n'a aucun problème par rapport à la passion qui s'en vient. Ça ne lui dérange pas du tout. Il ne nourrit pas non plus aucun mauvais désir par rapport au problème de l'ambition personnelle. Lui, il n'aspire pas à un trône. Il aspire à une seule chose. Suivre Jésus. C'est ce que Marc nous dit. Et c'est ce qu'il a fait. Il a suivi Jésus vers Jérusalem. Cet homme a trouvé Jésus, celui qui l'a guéri de son aveuglement et qui l'a sauvé de son péché. Cet homme est heureux, car il est venu à Jésus comme un enfant. Et c'est exactement ce à quoi ressemble le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est pour ceux qui viennent à Jésus comme un enfant. Et Bartimée avait ses dispositions de cœur d'un enfant. Et c'est pour ça que les richesses ne lui ont pas causé problème. La croix ne lui a pas posé problème et l'ambition personnelle ne lui a posé aucun problème. Vous savez, la réponse au problème des possessions matérielles, de la passion, de l'ambition se trouve justement dans l'exemple de cet aveugle. Bartimée, un mendiant aveugle aux qualités exceptionnelles, celle d'un enfant entrant dans le royaume de Dieu. Il a eu un engagement total envers Jésus, le Maître, qui est venu parmi les siens. Il a exercé une foi toute simple envers Jésus, le Fils de l'homme, celui qui s'apprête à donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Et il a été animé d'un désir profond de proclamer simplement à tous que Jésus est le Fils de David. Et ce, peu importe les obstacles. Cet homme est un bel exemple de quelqu'un qui accepte de venir à Jésus comme un enfant, avec un cœur d'enfant, avec une dépendance totale, une confiance et une humilité qu'un enfant va manifester à l'égard de Jésus. Vous savez, au chapitre 10, on a vu qu'il y avait des questions théologiques par rapport au mariage et au divorce, par rapport aux ruptures conjugales, par rapport aux relations de famille, aux priorités même dans le ministère. Et là, les disciples qui empêchaient les parents d'emmener les enfants à Jésus, par rapport aux richesses, par rapport à la passion, comme ce matin, et aussi à l'ambition personnelle. Mais tout ça trouve réponse dans la personne de Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de David, le Maître qui est venu chez les siens pour servir et donner sa vie comme la rançon pour beaucoup. il est non seulement the undercover boss, mais il a été et il est encore the underestimated boss. Il est le créateur de l'univers qui a été sous-estimé, qui a été rejeté par sa création, par les siens. Et ce que Marc nous montre au chapitre 10, c'est très particulier, vous savez. Parce que dans le chapitre 10, les différentes personnes qui sont dans le chapitre 10, que ce soit les pharisiens qui viennent avec leurs questions théologiques, que ce soit les couples qui ont des difficultés conjugales, que ce soit les parents qui ont des difficultés relationnelles, les disciples qui ne comprennent pas Jésus la raison de sa venue sur la terre et leur ambition personnelle. Vous savez, la seule personne qui n'a aucun problème avec Jésus, c'est qui? Dans le chapitre 10. Hein? C'est Bartimée. Et qui d'autre? Les enfants. Spécial, hein? Et quand on les met ensemble, les deux, c'est ceci. C'est que Bartimée est exactement ce que Jésus est en train d'illustrer en disant « Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à ses petits-enfants. » Si je ne viens pas à Jésus avec un cœur d'enfant, je vais avoir un problème avec toutes sortes de questions théologiques. Il y a toutes sortes d'aspects de la théologie, puis des je vais avoir toutes sortes de questions par rapport aux relations conjugales. Je vais avoir toutes sortes de questions par rapport à l'éducation des enfants. Je vais avoir toutes sortes de questions par rapport à l'argent, puis à comment gérer, puis comment en donner, puis comment pas en donner. Je vais avoir toutes sortes de questions par rapport à quelle place que je dois occuper, je devrais-tu servir là, à tel endroit, puis mon ambition personnelle dans la vie, puis ainsi de suite. Je vais avoir toutes ces affaires-là dans mon cœur. Mais le seul endroit où j'aurai aucun problème, c'est que si je vois Jésus avec un cœur d'enfant, où là je reconnais que c'est en Jésus seul que mon cœur peut trouver la paix, que là je peux trouver le pardon, l'amour, la grâce que mon cœur a besoin. Et vous savez c'est quoi le problème avec ça? C'est que c'est dur pour un enfant de vivre dans un monde d'adultes avec tous ces problèmes-là. Et même en tant que disciple qui veut suivre Jésus avec un cœur d'enfant, c'est dur. Mais la seule façon d'y arriver, c'est de faire ce que Bartimée a fait. C'est de faire ce que les enfants font. C'est d'aller à Jésus et d'avoir cette relation avec lui au niveau de son cœur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on vient devant toi. Et Seigneur, tu sais qu'on vit dans un monde complexe. Il y a tellement de questions difficiles à gérer. Et parfois, ça, même notre cœur a de la misère à te comprendre, a de la misère à comprendre qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu nous demandes. On a de la misère à faire du sens avec toutes ces situations-là qui nous rentrent dedans constamment. Puis on essaie de gérer, on essaie, Seigneur, de faire de notre mieux, on essaie de passer à travers. Seigneur, tu vois que sans toi, on ne peut pas y arriver. Comment est-ce que tu pourrais nous aider, Seigneur, à avoir ces dispositions de cœur dont tu parles dans Marc 10, que tu as voulu illustrer en prenant des petits-enfants, puis les prenant dans tes bras, les bénissant, leur imposant les mains, puis à travers cet homme mendiant aveugle qui avait un cœur justement d'enfant, où il a accepté de se détacher, de venir simplement avec son besoin, Et là, Seigneur, tu l'as rencontré. Tu as vu que son cœur était ouvert. Et là, Seigneur, il a pu goûter à ton amour, à ta présence dans sa vie. Seigneur, comment est-ce que tu pourrais ouvrir notre cœur ce matin? Tu sais comment notre cœur fonctionne. Tu sais c'est quoi qu'il y a dedans dans notre cœur qui fait que ça serre en dedans ou que on ne sait pas, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On a même de la misère, Seigneur, à voir comment on pourrait aller vers toi ou quoi que ce soit comme ça. Seigneur, tu sais comment c'est difficile pour nous. Humainement, comme tu as dit, c'est impossible, mais toi, Seigneur Dieu, tout est possible pour toi. Peux-tu ouvrir nos cœurs ce matin et faire qu'on puisse aller vers toi comme un jeune enfant qui irait tout simplement avec humilité, avec confiance, avec une totale dépendance sur toi, et que tu puisses nous accueillir, Seigneur Jésus. Montrer ce qui se passe dans notre cœur, puis nous aider à te laisser prendre le plein contrôle de notre cœur, de notre vie. Seigneur, entends ce matin le cri de nos cœurs. Que ceux qui crient vers toi ce matin, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, puisses-tu entendre leur cœur, Jésus, ce matin, et venir vers eux, parler à leur cœur, et leur donner ce que leur cœur a besoin. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen.